c'est important. Le message, il y a rapport à ça, c'est un peu cette idée-là. Parce qu'au bout de la ligne, on ne veut pas avoir d'obstacle dans nos prières. Puis ce soir, c'est le dixième point que je parle de ce qui peut être des empêchements pour être exaucé. Je dis pas que ça se vit, qu'on vit ça ici, mais cette méditation-là, le fait de penser à cela, ça nous amène à prendre conscience, de faire attention à ceux qui sont autour de nous, parce qu'il y en a de toutes les catégories, hein. Il y a des faibles dans la foi, il y a des forts dans la foi, il y en a de toutes les sortes, puis des fois, à cause que j'analyse trop, là, puis à un moment donné, je peux créer ou dire des choses ou faire des choses qui vont faire que je vais être bloqué quand c'est pas des choses du Seigneur. Le sujet qu'on va regarder, c'est ce qui nous empêche d'avoir de l'unité avec les autres. Parce que ce qui nous unit, c'est l'amour du Seigneur. Il dit, afin qu'il soit un comme nous sommes un. C'est ça que la prière de Jésus. Il veut que tous ses enfants puissent être un. Mais un, ça nous amène à être un en prière aussi. Puis s'il n'y a pas le un, mais c'est pas un en prière. Puis il dit, si deux s'accordent, ça veut dire qu'il faut que tu sois un dans la prière. Si on n'est pas un, spirituellement parlant, en communion les uns avec les autres, parce que on n'aime pas l'autre, mais ça vient de bloquer ce qu'on pourrait essayer de faire pour faire avancer en priant. Ne pas être dans l'unité avec les frères et sœurs que Dieu a placés autour de nous, ça peut être un obstacle à nos prières. Tu sais, on le dit dans les messages que Dieu nous a choisis. Si on est là, c'est lui qui est venu nous chercher. Puis là, il nous a mis ici à Beauharnois en attendant. On était peut-être ailleurs avant, on ne sait pas où est-ce qu'on va être dans 20 ans. Mais là, présentement, c'est lui qui m'a mis là, puis c'est lui qui vous a mis là. Chacun de nous, on a été mis là. Ça veut dire que c'est Dieu qui a fait cette équipe-là, c'est pas nous. Ça s'est fait pas tout seul, c'est Dieu qui l'a fait. L'Église, là, c'est Ecclesia, ça veut dire l'assemblée des choisis, de ceux qui sont sortis du monde pour faire partie du corps de Christ. On est là, ensemble, c'est Dieu qui a voulu qu'on soit là. Fait que c'est important qu'est-ce que je pense de l'autre qui est à côté. C'est Dieu. Quelle est notre attitude face aux frères et sœurs dans l'Église? Parce qu'on va lire tantôt un texte, puis on va voir que Jésus regarde même les arrière-pensées qu'on peut avoir dans nos face aux autres. La question que pour nous aider à méditer sur qu'est-ce qu'on pense des autres, est-ce que je me sens meilleur? Ou est-ce que je me sens en compétition? Est-ce que je crois pas qu'ils sont sauvés? Est-ce que je me sens irrité quand les gens parlent? Est-ce que je me sens capable de les rabaisser puis de les remettre à leur place? Parce qu'on se sent supérieur. Est-ce que je les traite comme des minables? Est-ce que je les regarde comme des pécheurs lorsqu'ils ont des problèmes ou qu'ils sont malades? Ça, là, ces idées-là, ça démontre qu'on les aime pas. Si je pense comme ça de quelqu'un, c'est parce que je l'aime pas. Je dis pas qu'on n'a pas raison dans le point. Parce que ça se peut qu'une personne dise vraiment de quoi qui n'est pas de Dieu. Là, c'est une vérité. Mais en général, à tous les jours, elle n'est pas trop en train de dire des conneries, cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois toujours dans l'attitude contre cette personne-là sur tous ces sujets. Il faut apprendre à aimer la personne quand même, la foi qu'elle n'a pas été correcte, c'est sûr qu'on peut aller la voir et y dire, mais avec amour, pas parce qu'on veut frapper dessus, voyez-vous. Il y a une approche qu'on doit développer en tant que chrétien face aux autres qui sont autour de nous. Notre attitude puis nos arrière-pensées démontrent ce que nous sommes vraiment. Parce que Jésus l'a dit aux pharisiens, et qu'eux autres étaient des sépultes blanchies. Ça veut dire, il était beau dehors, il était blanc au dehors, mais en dedans, c'était plein d'ossements de mort. Ce qui se passe dans notre pensée face aux autres, c'est là. Est-ce que c'est c'est un sépulcre plein d'ossements de mort? C'est un cimetière en dedans, ou bien des gens remplis d'amour, puis autant à l'extérieur qu'à l'intérieur? Dieu connaît nos pensées. Jésus sur terre connaissait les pensées des gens. Puis dans le passage qu'on va lire, c'est Luc au chapitre 7, le verset 36. C'est un pharisien. Il pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, puis se mit à table. Et voici une femme pécheresse. Là, le texte le dit que c'est une femme pécheresse, mais quand elle rentre, pas tout le monde peut-être qui sait qu'elle est pécheresse, mais là on le sait. Pourquoi? Parce qu'elle a été étiquetée. Sûrement que le monde savait que c'était une prostituée qui était dans la ville, puis que il était lapidé d'habitude, mais là, jusqu'à où que c'était sa manière de vivre, ça nous le dit pas. Elle se trouvait dans la ville, puis ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, là, elle a voulu aller rejoindre Jésus pour y parler. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum, elle se tint derrière aux pieds de Jésus, puis elle pleurait. Là, tu vois que cette personne-là, même si par ceux qui ont écrit le texte, là, c'est Luc. Luc avait entendu le témoignage de quelqu'un d'autre qui a dit ça, que c'était une femme pécheresse. L'étiquette était sa femme, mais la femme, quand elle y était, elle n'a pas été là pour pécher, elle était là pour prier, peut-être prier, mais pleurer sur les pieds de Jésus en amenant du parfum. Son action qui était là, il n'y avait rien d'être une action de méchanceté ou de pécheresse. Puis là, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis elle les essuya avec ses cheveux. Les baisa, elle a embrassé les pieds de Jésus, puis elle les a oignis de parfum, a versé sa bouteille d'albâtre de parfum sur les pieds de Jésus. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela en lui, il dit en lui-même, si cet homme est un prophète, il connaîtrait quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Là, il commençait à juger. Sûr que c'est une pécheresse. Son étiquette de pécheresse, elle apportait encore devant ses yeux à lui, mais elle n'était pas en train de pécher, là. Elle était en train d'embrasser les pieds de Jésus, puis d'y mettre du parfum, puis elle pleurait en repentance. Jésus regarde les gestes au-delà des apparences. Le pharisien, lui, il se pensait juste. Lui, il se pensait correct, puis il pensait que l'autre, c'était une pécheresse. Là, on continue le paragraphe. Jésus prit la parole et dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, » répondit-il. Il dit, « Un créancier avait deux débiteurs. » L'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et elle ne m'a point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, puis les a essuyés avec ses cheveux. Tu m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Fait que c'est vrai que dans le passé, elle avait fait des péchés, puis elle avait l'étiquette. Mais là, cette journée-là, est en repentance, puis elle est aux pieds de Jésus, en train de pleurer. puis de l'embrasser, puis de mettre du parfum. L'autre la jugeait face à son passé. Tu sais, le passage qui dit celui qui croit en Jésus, il est point jugé. Puis il est passé de la mort. Il vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Quand quelqu'un vient à Jésus, Jésus ne regarde pas son passé. Il pardonne, puis il ne juge pas pour son passé. Il pardonne, puis il est passé de la mort à la vie. C'est ce qu'elle est en train de vivre. Puis était celle décrite dans son questionnement. Jésus, il a dit, celle qui a plus été pardonnée, c'est elle qui a le plus aimé, en fin de compte. Puis c'est de même qu'elle a démontré qu'elle aimait Jésus, en se mettant à ses pieds, puis en l'embrassant. Parce qu'elle savait qu'elle avait été pardonnée. Elle était repentante, mais elle était reconnaissante d'avoir été pardonnée. Jésus, il n'a pas jugé la femme par son passé, mais il a vu sa repentance. Dans Luc 7, 47, là, Jésus, encore, il dit, « C'est pourquoi je te dis, ces nombreux péchés ont été pardonnés. » Parce que ta regarde aller, là, a vraiment l'air de quelqu'un qui a compris le salut, était reconnaissante, puis elle pleurait d'avoir été pardonnée. Car elle a beaucoup aimé, c'était évident. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Puis il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. On voit là-dedans le cœur de Jésus. Comment est-ce qu'il voit les affaires quand quelqu'un qui connaît pas le Seigneur, c'est sûr qu'il va en faire plein de péchés. Mais la journée qui se repent et qui demande pardon au Seigneur, le Seigneur le reçoit, le Seigneur l'accueille sans jugement, puis il pardonne ses péchés, puis il dit que sa foi a été sauvée. Contrairement à ceux qui regardent ça, puis la regardent encore avec les yeux du passé. Dieu nous appelle à être miséricordieux envers les autres, puis à avoir pitié des autres. Dans Jacques 2:13, ça dit, « Car le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Quand tu as un cœur miséricordieux, le mot miséricordieux dans le texte, là, c'est un cœur de bonté ou de bonne volonté envers le misérable et l'affligé. Puis en plus de ça, tu as un désir d'aider. Quand t'es miséricordieux, t'es rempli de bonté, t'as à cœur la personne, puis tu veux l'aider, t'as de la compassion, puis t'as de la pitié. C'est ça que Dieu s'attend à ce qu'on soit envers les autres. Fait que quand quelqu'un arrive comme ça, puis que ça sera une femme de mauvaise vie, mais elle se repent. Mais il faut commencer à développer, comme Jésus, c'est un cœur de pitié-là, d'accueil, d'entourer, puis de vouloir l'aider. Pierre, lui, nous enseigne quelques excellents traits de caractère chrétien dans 1 Pierre 3:8. Il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, les mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ça devrait être notre cœur. Être capable de s'aimer, d'avoir de la compassion puis de l'humilité. Mais d'arriver à être animé des mêmes pensées, des mêmes sentiments, ça veut dire que si on s'enligne, c'est la Bible qui a la priorité, on s'enligne autour de ça, parce que ce que le danger là-dedans, c'est de chercher l'unité, mais en dehors de la Bible, on appelle ça l'humanisme. Puis là, on cherche à être un dans aucun principe d'obéissance. Tu sais, on tosse la Bible, puis ce qu'elle dit, puis on peut essayer de penser qu'on aime les autres sans jugement, mais sans loi. Mais nous, vu qu'on est chrétiens, il faut avoir les mêmes pensées, mais autour de ce que Jésus a dit, puis avoir les mêmes sentiments face à ce que Jésus a dit, puis être rempli d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Nous, c'est à cause du Seigneur qu'on a cette unité-là. C'est l'unité de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous souder. Tant qu'on va être en accord avec ce qui est écrit, on va être dans l'unité avec l'Esprit. Voyez-vous? le mot compassion, que dans ce texte-là, il disait d'être rempli de compassion puis d'humilité. Compassion, c'est avoir de fortes entrailles, être compatissant, le cœur tendre, miséricordieux. Ça revient qu'un cœur tendre, c'est un cœur qui est tourné vers les autres puis qui veut les aider. C'est ça qui est le point. Tu penses pas à toi, tu penses aux autres. Tu veux dans le Seigneur. Il faut développer un cœur de compassion envers les autres brebis du Seigneur. Parce que moi, j'étais une brebis du Seigneur, mais vous êtes des brebis du Seigneur. Je dois développer ça, sachant qu'on est dans le corps qu'on est comme dans une bergerie, là, puis on est toutes des brebis du Seigneur, puis il faut développer les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, les uns face aux autres. Dans Colossiens 3:12, ça dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Ça va nous permettre d'écouter les gens, puis de les appuyer dans leurs prières. Comme je disais tantôt, mettons, quelqu'un il est malade, là, tout le temps malade, puis là, le monde sont tannés qu'il soit malade. Puis là, ils sont quasiment en train de dire c'est de sa faute, puis il doit être sous jugement de Dieu, puis de le critiquer, puis ainsi de suite. Ça, c'est pas des entrailles de miséricorde. Un entraille de miséricorde, c'est de l'entourer, d'essayer de l'aider, de porter secours, de pourvoir s'il manque quelque chose, puis de prier en ayant le même cœur qu'elle a, de vouloir s'en sortir. Mais nous aussi, on doit porter son fardeau en priant la même chose, dans la même ligne de pensée qu'elle, sans la juger. Comme ça dit dans Matthieu 18, 19, et je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. L'accord est possible quand il y a une unité. Être à leur écoute et prier de tout notre cœur pour leurs besoins. Dans Éphésiens 6, 18, ça dit, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela qu'une entière persévérance et priez pour tous les saints. » On critiquera plus les autres dans leur faiblesse, mais on va être capable de prier pour leur guérison. Comme ça dit dans Jacques 5, 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente juste a une grande efficace. Amen.